Alors ils repartirent par un autre chemin. C'est ma prière aujourd'hui pour chacun de nous, pour moi compris. Je regarde l'autre chemin pris par les mages. Quel est-il? L'autre chemin pour les mages, c'est le chemin qui va de Bethléem à leur point de départ. C'est le chemin qui va de la rencontre de Jésus à la vie de tous les jours. C'est le chemin qui va de la rencontre extraordinaire à la vie la plus ordinaire, à vivre autrement parce qu'on l'a rencontré. C'est aussi le chemin qui évite Hérode, le fourbe, le violent, uniquement préoccupé par la défense de son pouvoir personnel, au point qu'il élimine tous ceux qui le menacent, qu'ils soient petits enfants innocents du côté de Bethléem ou qu'ils soient les membres de sa propre famille. Nous le savons par Flavius Joseph qui nous fait l'histoire juive. Il a noyé dans une baignoire son propre neveu Aristobule, un homme dangereux. Et le chemin, l'autre chemin des mages, c'est enfin celui qu'ils parcourent les mains vides. Ils n'ont plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe. Mais s'ils ont les mains vides, ils ont le cœur plein d'une présence ardente. L'étoile n'est plus là-haut au risque de disparaître au moindre nuage. L'étoile, elle est en eux. À jamais. Je regarde maintenant l'autre chemin pris par Jésus. Quel est-il? Lui qui dit de lui qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Les premiers chrétiens disaient du christianisme qu'il était la voie. C'est le chemin immense, sans limite. Pris par celui que Jean appelle le Verbe qui était auprès de Dieu, qui était Dieu. Sans lui, rien ne fut, le monde fut par lui. Quel voyage, quel chemin! Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. C'est le chemin du Verbe infini qui prend chair dans le temps, dans l'espace. Sans le faire éclater, il a demeuré parmi nous. L'immense chemin que Dieu fait vers les hommes, les femmes, les enfants, par Jésus, son Fils, pour les hommes, les femmes et les enfants de tous les temps. Quel chemin! Entre ce grand chemin qui va du ciel à la terre et qui ira au moment de la résurrection et l'ascension de Jésus de la terre au ciel, entre ces deux trajectoires de salut, il y a l'humble chemin de l'homme Jésus parmi nous. Il va de Bethléem à Jérusalem. Une trentaine d'années de vie discrète à Nazareth. Avant quelques années, quelques dizaines de mois, sur le chemin d'une mission publique. Eh bien, c'est d'abord le chemin de réussites apparentes. Les 12 quittent tout pour le suivre. Aussitôt, les disciples se multiplient, les foules se pressent autour de lui, au point qu'il doit monter dans la barque et s'éloigner du rivage, au point que pour amener le paralytique, il faut passer par les toits, écarter les branches et descendre le malade devant lui. Les rues sont pleines de monde. On veut l'entendre, on veut le toucher. S'il traverse le lac en barque, on fait le demi-tour du lac à pied, et ventre affamé a encore des oreilles. On veut l'entendre. Au nom du Père, dont il parle de plus en plus, de ce Père mystérieux qu'il nous dessine, il surprend tous ses frères. En prenant les chemins qui ne sont pas souvent pris. Ce Ce sont les chemins des pauvres, les chemins des malades. Ce sont les chemins interdits qui traversent la Samarie. Ce sont les chemins dangereux qui conduisent dans la maison des païens, qui plus est un centurion, un romain, un chef de l'armée occupante, quitte à passer pour un collaborateur. Il prend tous ces chemins, tous les chemins qui suscitent le scandale. D'autant plus que de plus en plus, il questionne sans arrêt l'argent des possédants. Il peut fermer les mains et le cœur. Le pouvoir des puissants, s'il ne sert pas les plus faibles, et même lui le grand pratiquant, le vrai pratiquant, le voilà qui questionne le culte des religieux, il peut n'être qu'hypocrisie. Jésus prend humblement un chemin difficile. Saint Luc nous dit quelque part qu'il prend fermement le chemin de Jérusalem. Son chemin dérange. Son chemin va le conduire des premières étapes apparemment réussies au dernier moment d'un chemin apparemment un échec. Son chemin, son autre chemin, il va de l'adhésion des foules à leur dispersion. Il va de l'attachement des douze à leur trahison. Il va de la colline des Béatitudes à Gethsémani. Il va de la montagne de la Transfiguration au Golgotha. Il va des heureux sentiers de la prédication en Galilée au chemin de croix le plus honteux dans les ruelles de Jérusalem. Au bout du chemin, il fait encore toute confiance à son Père. Et il garde tout son amour, toute sa miséricorde pour ceux qui le crucifient ou qui se moquent de lui, ou pour les bandits qui sont crucifiés avec lui. Il n'y a en lui aucune place, ni pour la haine de qui que ce soit, ni pour le doute vis-à-vis de l'amour de son Père. Il a réussi l'autre chemin. Je regarde maintenant l'autre chemin pris par les premières communautés chrétiennes. C'est celui qui va de l'effondrement. Il est mort. Au relèvement, il est ressuscité. Nous en sommes témoins. C'est celui qui va de la tristesse à la joie, de la dispersion à la communion, de la peur au courage missionnaire. C'est celui qui va de Jérusalem à Rome. De Jérusalem, la capitale où l'on cherche l'unique, à Rome, la capitale où on se met à quatre pattes devant n'importe qui, n'importe quoi, devant l'empereur. Il y a une bonne nouvelle contagieuse à partager avec tous, avec n'importe qui, avec les mots qu'on trouve. Une bonne nouvelle impossible à cacher. Chacun est aimé, chacun est passionnément aimé, surtout celui peut-être qui se croit le plus indigne. Chacun est fait pour le ciel, il n'est pas fait pour se disperser en cendres, en terre. C'est le chemin qui sort de la synagogue et qui va s'ouvrir à tous les Juifs. Juifs de Jérusalem, juifs de culture grecque, païens devenus juifs. Chaque fois dans les Actes des Apôtres, on voit ces pas décisifs. Une église qui va même s'ouvrir à Paul, son persécuteur. Une église qui va s'ouvrir aux Samaritains. Beaucoup vivent dans la grâce du baptême sans l'avoir reçue. Une église qui va s'ouvrir aux païens, et y compris justement à ces chefs de l'armée d'occupation. Une église qui va s'ouvrir à tous les autres, aux philosophes de l'acropole d'Athènes, aux prolétaires des quais de Corinthe ou au petit peuple de Rome. Quelle Église! La bonne nouvelle est pour tous. L'Église ne peut pas être un ghetto. Elle ne peut pas s'enfermer sur elle-même. Elle ne peut pas s'installer dans la frilosité. Elle s'ouvre au risque des courants d'air, à l'avenir sans cesse à inventer, au ministère à partager. Elle a bien entendu l'appel de son Seigneur, allez dans le monde entier. L'Évangile va avec Paul, avec Pierre, avec les colonnes de l'Église jusqu'aux confins de la terre. C'est le chemin qu'on prend en recevant trois repères. On nous les a rappelés ce matin. Trois repères pour ne pas s'égarer. Restez assidus à l'enseignement des apôtres. Vous comme moi, vous souffrez de voir énormément de monde caricaturer ce que dit l'Église, ne pas savoir ce que dit le pape, ne pas savoir ce que disent les évêques unis au pape. La plupart du temps, c'est pas si difficile à lire et ça vaut la peine d'être lu. L'assiduité à l'enseignement des apôtres, parce que les apôtres, ils ont comme première mission de se laisser enseigner par le Christ. Humblement, eux aussi ne savent rien par eux-mêmes. L'assiduité à l'enseignement des apôtres, l'assiduité à la charité fraternelle. Rien ne se fera dans notre Église dans les décennies qui viennent et qui ne seront pas simples sans la multitude de petites équipes dont on pourra dire « voyez comme ils s'aiment ». Ça ne passera que par là. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on évitera les affrontements. Ça ne veut pas dire qu'on passera à côté de la nécessité de nous pardonner. Mais le « voyez comme ils s'aiment » devra l'emporter. Assiduité à l'enseignement des apôtres, assiduité à la charité fraternelle, assiduité à l'Eucharistie et aux prières, la fraction du pain. Nous aurons du mal à nous bouger le dimanche, à faire l'effort d'ouvrir nos voitures, de faire des détours, à nous rassembler autour des lieux où l'Eucharistie sera le mieux célébré, la mieux célébrée. Nous aurons du mal à accepter que des horaires changent, que des habitudes changent. Nous aurons tous à pouvoir compter les uns sur les autres, nous tous qui sommes ici, pour le faire comprendre, parce que les prêtres ne sont pas des machines infatigables à multiplier les messes. Assidus à l'enseignement des apôtres, à la charité fraternelle, à l'Eucharistie et aux prières, il y a tant et tant de manières de prier, à retrouver, à réinventer, y compris chaque semaine sous chacun de nos clochers, si seulement nous apprenions à le faire avec la prière des heures, la prière de l'Église. Nous vivons ce que vivent les premiers chrétiens, car pour eux comme pour nous, le chemin autre à prendre, c'est celui où l'on n'évitera pas les persécutions et les épreuves. Les épreuves, ce sont celles qui viennent du dedans de l'Église. Ananie et Saphir qui trompent la communauté sur une histoire d'argent. Les épreuves, c'est la grande bataille. Faut-il ou non circoncire tout le monde avant que chacun soit baptisé? Les épreuves, c'est la bataille entre la novateur, les novateurs, ceux qui vont un peu plus vite que la musique, et puis ceux qui traînent par derrière. La crosse de l'évêque n'est pas assez longue pour rejoindre ceux qui vont trop vite et ceux qui traînent trop loin. Quelle difficulté quand même! Les épreuves des premiers chrétiens restent les nôtres. Il n'y a qu'à relire ce magnifique chapitre dans les Actes, le Concile de Jérusalem. Si je regarde notre chemin à nous, après avoir regardé celui des mages, celui de Jésus, l'unique, celui des premiers chrétiens, quoi dire ? Notre chemin, il est bien celui des mages. D'ailleurs, dans quelques minutes, chacun va rentrer chez lui. Le chemin des mages, c'est celui qui nous rappelle que chacun, chacune de nous est le premier évangélisateur de la vie la plus quotidienne qui se passe autour de lui, dans sa famille, dans ses relations, dans les associations, dans son métier et même dans l'épreuve du chômage. À quel âge qu'on soit, c'est dans son collège, c'est dans son lycée, c'est dans son travail, dans ses loisirs. Chacun est le porteur de l'Évangile, pas forcément avec des mots, au moins avec la sainteté de son regard, la sainteté de sa vie. Ça, c'est les mages. C'est bien, notre chemin, c'est bien celui des premières communautés chrétiennes, quelles que soient les épreuves que nous aurons à rencontrer, quelles que soient même les persécutions que nous pourrions vivre, la bonne nouvelle sera toujours à vivre, elle sera toujours bonne, et une joie imprenable peut nous habiter, celle de nous savoir aimer. Notre chemin, c'est évidemment celui du Christ. Il n'y a pas de chemin de gloire sans chemin de croix. Tous les saints, toutes les saintes de tous les temps nous le rappellent. Mais s'il fallait dessiner quelques attitudes plus que jamais nécessaires pour les temps qui courent, pour parcourir notre chemin de mission dans notre diocèse de Cambrai, je dirais ceci. Je crois vraiment qu'il faut que nous travaillions tous pour libérer tous nos groupes, que ce soit dans les paroisses, les mouvements, les services et les aumôneries, pour libérer tous nos groupes d'une culture de la morosité. C'est fantastique ce que la France sait cultiver, ce genre de chant. Incroyable. Et l'Église avec le reste de nos compatriotes. Comment nous libérer de toute nostalgie? Je me souviens du père Rémermet qui nous disait « Dieu autrefois moins vivant qu'on ne le croit est aujourd'hui moins mort qu'on ne le dit. » Voilà. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de lever le nez un peu, il suffit de regarder dans la vie la plus quotidienne de la plupart de nos familles, sans doute de toutes nos familles. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme sainteté discrète dans la vie de tous les jours, auprès des malades, auprès de ceux qui souffrent le plus, auprès de ceux qui cherchent du travail, auprès des enfants, auprès des adolescents, quand ils sont insupportables et qu'ils ont claqué les portes? Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme sainteté habituelle dont personne ne parle? Sainteté ordinaire de nos vies simples. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme sainteté dans la vie de beaucoup de ceux et de celles qui se croient loin du Christ alors qu'il n'est jamais loin d'eux, et qui se croient malheureusement loin de l'Église alors que peut-être nous les avons laissés loin de nous? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme sainteté? Cet esprit qui est suffisamment libre pour faire des saints avec ceux et celles qui n'ont jamais rencontré le Christ, qui n'ont jamais connu l'Église. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et ça n'est pas la moindre grâce des visites pastorales de permettre, non seulement à l'évêque, mais à beaucoup d'entre vous, de découvrir de vraies saintetés chez ceux et celles qu'on ne croise malheureusement presque jamais, que l'on ne croise jamais. Il y en a des solidarités choisies, des partages acceptés. Il y en a de l'esprit de l'Évangile vécu à l'insu de ceux qui en vivent. Il y en a. Non seulement il nous faut lutter contre la morosité, contre la tristesse, qui n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, parce que je me souviens qu'Emmanuel Mounier, au milieu du XXe siècle, disait des chrétiens qu'ils étaient des bébés suaves, des vases d'ennui et des victimes dominicales. Alors vous voyez, c'est pas nouveau. Il faudrait que nous aidions à aimer notre temps, à aimer notre temps. Il me revient en mémoire, parce que je suis toujours étonné lorsque j'entends dénigrer notre temps, il me revient en mémoire une parole de saint Augustin dans sa célèbre homélie sur les malheurs des temps. On rencontre des gens qui récriminent toujours sur leur époque et pour qui celle de leurs parents est-elle bon temps. C'est saint Augustin qui parle, hein. Et il continue: ce passé dont tu crois qu'il était le bon temps parce que ce n'est pas le tien. Voilà. Ça, c'est un signe de vieillesse incroyable, quand on dénigre son temps. Et c'est vraiment le signe de la foi quand on aime son temps, son époque, son monde. Qu'on arrête de le noircir, de le noircir. Alors, s'aider pour grandir ensemble dans la joie de croire. S'aider pour grandir ensemble dans l'humble fierté d'être de notre Église catholique. Je n'ai pas peur de le dire. Elle est courageuse dans le monde d'aujourd'hui. Ça n'est pas pour rien que de bien des manières elle est persécutée. Elle dérange beaucoup d'intérêts. Elle dérange beaucoup de fils de ténèbres. C'est bien qu'elle le soit. Une attitude encore, il nous faudrait retrouver le culot d'appeler bien sûr à la sainteté du mariage. On va tenter de le faire avec la pastorale des jeunes pendant plusieurs années, au milieu, avec vous, au milieu des jeunes qui ont bien du mal à trouver des repères un peu précis pour apprendre à aimer, mais appeler aussi aux vocations particulières, appeler au ministère ordonné. Y aura-t-il aujourd'hui 1, 2, 3, 4 jeunes qui viendront dire « Allez, quittons tout, je veux bien le suivre, parce que nous avons besoin de jeunes frères prêtres, parce que nous avons besoin aussi de jeunes qui plongent dans la vie consacrée. » À ce moment de l'année, l'évêque reçoit des supérieurs majeurs. C'est souvent pour la tristesse de l'évêque et du diocèse. C'est malheureusement souvent pour apprendre que telle ou telle communauté, petite communauté miracle, souvent précieuse dans les quartiers les plus oubliés, les quartiers les plus populaires, va s'affaiblir, voire s'en aller. Nous avons besoin de ceux et de celles qui croient suffisamment au ciel pour plonger dans le ministère ordonné ou la vie consacrée. D'appeler aussi au sacrement. Nous sortons de centaines d'années où l'Église n'a fait qu'accueillir les demandes. On attend. Il y a des permanences. On va venir demander un baptême, on va demander une confirmation, on va demander un mariage, on va demander une messe. Appeler au sacrement. Ne plus seulement attendre, appeler au sacrement. Parce que ça vaut le coup d'appeler à la rencontre du Christ, aux rencontres les plus authentiques de Jésus. D'appeler au baptême. Une cinquantaine de diocésains adultes se préparent au baptême. Des centaines d'enfants en âge de catéchisme se prépare au baptême, appelé à la confirmation. Il y a encore des lieux trop grands dans le diocèse où l'on n'appelle pas assez à la confirmation. Appelé au sacrement. Et enfin, bien sûr, comment ne pas souhaiter que nous sachions, surtout dans nos équipes d'animation pastorale, dans nos conseils de doyennés, s'ils sont déjà constitués, ou dans les futurs qui se constitueront, que l'on apprenne à prendre le temps de lever le nez du guidon. Parce que tous, dès que nous nous rencontrons, nous sommes le nez sur le guidon. C'est même notre risque au conseil épiscopal. Il y a tellement d'horaires à maîtriser, il y a tellement de programmes à réaliser, il y a tellement de charges à se partager, on lève plus le nez, on n'a plus de vision, on n'a plus de projet, on n'a plus d'objectif. C'est le but un peu de notre travail avec les deux orientations, aller profond et aller loin, avec les 6 paroles qu'on a répétées tout à l'heure, avec des objectifs très précis, une quarantaine, une cinquantaine, je ne sais plus, mais par pitié, enfin, que chaque année, pendant ces 5 ans, nous nous arrêtions une fois, deux fois, trois fois, 4 fois dans l'année, prenant du temps, prenant un temps de prière pour lire, relire, regarder ce qui nous est proposé comme objectif, choisir avec le désir d'aboutir, vérifier la marche, pouvoir en rendre compte en fin d'année, avancer ensemble, faire que notre vieille péniche qu'est l'Église devienne un peu plus voilier léger au souffle de l'esprit, lever le nez du guidon. S'il fallait dire un dernier mot, je le prendrais au père de Courtrai, qui fut mon évêque et qui l'a écrit en ce temps-là pour ses diocésains de Dijon. S'il me fallait résumer d'un mot le contenu et la raison de notre espérance apostolique, je n'irais pas chercher bien loin. Je dirais tout simplement Jésus-Christ. Combien de fois ai-je eu envie de dire à mes frères découragés ou impatients, et surtout à ceux qui me semblaient dépenser trop d'énergie à se quereller sur des questions secondaires, cherchez d'abord Jésus-Christ. Suivez Jésus-Christ. Aimez Jésus-Christ. Pour un chrétien, tout est là. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés, pas d'autre voie, d'autre vérité ultime, d'autre vie, d'autres paroles, d'autres pains, d'autres lumières. Le jour où quelqu'un entrevoit que Jésus de Nazareth est vraiment l'homme en qui Dieu lui-même se fait voir et entendre en personne, où pourrait-il encore mettre son espérance? Où chercherait-il le courage d'être et la joie de comprendre? Nous prions pour être tous des allumeurs d'étoiles.